Technologie, science,
algorithme,
simulation,
informatique. Technologie.
Chers auditeurs, bienvenue dans ce 13e épisode du podcast Interstice. Aujourd'hui, nous allons parler de l'apprentissage des robots. Pour en discuter, nous recevons Pierre-Yves Oudéyer, chercheur en robotique comportementale et sociale à l'INRIA Bordeaux-Sud-Ouest. Pierre-Yves Oudéyer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la tête de Flowers, un projet qui porte sur l'étude et la mise au point de mécanismes qui permettent aux machines d'apprendre des nouveaux savoir-faire. Vous partez du postulat qu'un robot a une intelligence et donc qu'il peut apprendre. Comment est-ce possible ?
Alors en fait, non, je pars pas de ce postulat-là. J'aimerais bien arriver à ce résultat-là. Ce qui m'intéresse effectivement, c'est la manière dont les organismes, vivants en particulier, apprennent à découvrir leur environnement, apprennent de nouveaux savoir-faire, savent s'adapter aux changements dans leur environnement. Il se trouve qu'aujourd'hui, les machines sont extrêmement loin d'une telle capacité d'adaptation, une capacité de flexibilité face au changement de l'environnement, c'est-à-dire être capable d'apprendre à manipuler un nouvel outil qu'on n'avait jamais rencontré pour résoudre une tâche nouvelle.
Quels sont les défis en ce qui concerne ce projet de recherche ?
L'un des défis majeurs, scientifiques et technologiques, c'est de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir construire une machine qui va être capable d'apprendre plusieurs choses l'une après l'autre, de découvrir des choses nouvelles, sans qu'un ingénieur intervienne.
De façon autonome, donc.
De façon totalement autonome. Parmi les questions que ça pose, évidemment, ça pose la question de l'exploration, parce que les enfants, pour apprendre des choses nouvelles, ils pratiquent. Et pratiquer, ça veut dire quoi chez eux ? Ça veut dire tout simplement jouer avec l'environnement. Et donc, ils explorent en permanence le monde. Il est important, si on veut faire des machines qui aient au moins certaines de leurs caractéristiques en termes d'intelligence, eh bien, probablement cette capacité d'exploration, cette capacité de curiosité, cette capacité de s'intéresser à des choses nouvelles sans qu'un ingénieur n'ait spécifié à l'avance dans le détail à quoi s'intéresser, eh bien, probablement, il faut essayer d'en doter les machines et les robots.
Mais comment peut-on doter un robot de cette capacité d'exploration, de curiosité ?
L'une des idées fondamentales, c'est de faire des systèmes qui s'intéressent à des choses de complexité intermédiaire. Et l'une des manières de mesurer cette notion de complexité intermédiaire, c'est de dire que ce qui va être le plus intéressant, ce sont les situations dans lesquelles, au départ, on fait pas mal d'erreurs en prédiction, mais assez vite, les erreurs diminuent.
Concrètement, ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire donc des situations, des contextes d'activité motrice, par exemple, dans lesquels le robot fait des progrès en apprentissage, dans lesquels la maîtrise qu'a le robot de cette situation augmente assez vite. Donc, d'une certaine manière, on peut caractériser un certain nombre d'activités. Le robot essaye quelques activités. Il mesure à quel point il fait des progrès dans chacune de ses activités. Et puis, s'il voit que parmi ces activités, il y en a une d'elles dans lequel il fait beaucoup plus de progrès que les autres, eh bien, il va se focaliser sur celle-là. Il va jouer avec elle, il va la pratiquer. Et puis, évidemment, au bout d'un moment, il va avoir fait des progrès. Et donc, il va atteindre une sorte de plateau en termes de performance.
Et qu'est-ce qui se passe lorsque ce plateau est atteint ?
À ce moment-là, il va commencer à se désintéresser de cette activité, puis il va passer à autre chose. Donc, il va recommencer à explorer un petit peu autour de lui, à essayer de voir s'il n'y a pas un autre objet avec lequel il pourrait jouer, une autre manière de bouger son bras ou sa patte qu'il n'a encore jamais essayé. Et s'il en trouve une pour laquelle il semble qu'il puisse faire beaucoup de progrès, eh bien, il se focalise sur celle-là. Et puis, quand il la maîtrise, il passe à autre chose. Et donc, de cette manière-là, on comprend comment le robot peut commencer à avoir ce qu'on appelait une trajectoire développementale, c'est-à-dire une suite de comportements qualitativement distincts, dont typiquement la complexité va augmenter progressivement, sans que l'ingénieur, dès le départ, n'ait programmé la séquence de ces comportements.
Donc le robot va de lui-même décider quelle action il va faire ?
C'est-à-dire que c'est le robot tout seul qui, à un moment donné, dit « Eh bien, moi, je vais commencer à essayer de jouer avec mon bras droit pour essayer de taper dans tel objet. » Et puis ensuite, c'est le robot tout seul qui décide d'arrêter de s'y intéresser et puis d'essayer, avec sa bouche, d'attraper un jouet, par exemple, une tasse qui est autour de lui. Et puis c'est le robot tout seul qui s'en désintéresse. Puis après, commence tout seul à essayer de s'intéresser à produire des sons et à voir qu'est-ce que ça peut provoquer comme réaction chez un humain qui est autour, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on parle notamment de développement cognitif ouvert. C'est-à-dire que le robot, a priori, ne s'arrête jamais d'apprendre des choses nouvelles.
Ça veut dire que le robot peut tout apprendre ?
Pas du tout, mais ça veut dire que il n'y a pas de fin dans son apprentissage. C'est-à-dire qu'en permanence, quand il maîtrise les choses, il est capable lui-même d'aller vers un nouveau défi.
Quels sont les usages qu'on pourrait faire de ces robots ?
Parmi les applications de la robotique, aujourd'hui, on envisage de plus en plus que les robots ne soient plus simplement présents dans les usines pour travailler ou sur des terrains dangereux pour l'exploration de l'homme et donc pour le remplacer, mais soient aussi présents dans la maison. On peut s'interroger sur les usages potentiels qu'on pourrait avoir d'un robot à la maison.
De quels usages parlez-vous précisément ?
On entend beaucoup l'idée que des robots pourraient remplacer les gens dans leurs tâches quotidiennes à la maison, dans les tâches ennuyantes, fastidieuses. Les Anglais parlent des 3D, dull, dumb and dirty, les tâches sales, stupides. Et je ne sais pas si c'est là-dessus qu'il faut se focaliser.
Pourquoi ?
Je ne sais pas si vous avez vu le film Wall-E récemment,
oui.
Dans lequel on a une société dans laquelle justement ces robots ont été développés et puis ont progressivement remplacé l'homme dans toutes ses tâches quotidiennes, domestiques, à tel point qu'ils l'ont remplacé littéralement pour toutes les tâches physiques de la journée, que c'est devenu un être purement un mental, un cerveau. Ben, finalement, on s'aperçoit que la vie de ces gens-là n'est pas très enviable. Ce sont des personnes qui, à la fin, sont même plus capables de se mouvoir, sont plus capables d'utiliser leur corps, sont même arrivées dans un stade mental assez problématique. Eh bien, je pense effectivement que toutes ces activités qui nous semblent ennuyeuses, fastidieuses et qui impliquent notre corps dans la vie de tous les jours, peut-être elles sont quand même importantes. Nous sommes des êtres humains qui avons une longue histoire biologique. Et la vie mentale, par ailleurs, eh bien peut-être dépend beaucoup de la santé de notre corps, du fait qu'on utilise notre corps au quotidien. Donc je pense qu'il faut s'interroger sur est-ce que c'est véritablement bien d'imaginer un futur dans lequel on serait confortablement assis sur notre canapé chez nous et quand on a envie d'aller se chercher une canette de Coca-Cola dans le frigo, on n'y va même plus, c'est le robot qui nous l'apporte.
Alors vous, qu'est-ce que vous imagineriez à la place ?
Peut-être serait-il plus intéressant d'avoir une vision du futur dans laquelle les robots ne seraient pas là pour nous remplacer dans des choses qu'on fait déjà, mais d'avoir des robots qui soient là pour enrichir notre vie quotidienne, pour nous stimuler. Donc on passerait des 3D dont je vous ai parlé tout à l'heure aux 3E, Education, Entertainment, Everyday. C'est-à-dire les robots qui sont là pour l'éducation, pour le loisir, pour s'amuser au jour le jour.
Et à qui pourraient servir ces robots ?
Ça pourrait être intéressant tout d'abord pour Monsieur Tout-le-Monde, et puis pour des situations qui sont aussi parfois assez loin de ce qu'on pourrait imaginer comme application des robots, mais qui sont très importantes, et qui sont par exemple les interactions ludiques et socialement stimulantes avec certaines personnes, comme par exemple les personnes âgées qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer aujourd'hui. C'est un réel problème. Eh bien, un certain nombre de chercheurs aujourd'hui réfléchissent à la manière dont on pourrait utiliser des robots qui, au cours de leurs interactions avec cette personne dans la journée, par exemple, pourraient l'aider à se souvenir ce qu'elles ont fait la veille ou l'avant-veille, ou même le matin pour le soir, en discutant avec elles, en leur montrant des photos de ce qu'elles ont fait. Voilà. Encore un autre exemple, c'est l'utilisation des robots dans le cadre de la thérapie et de l'accompagnement social des enfants autistes. Il est très difficile d'amener ces enfants vers des interactions même simples, sociales, avec les autres.
Mais de quelle manière les robots pourraient-ils aider ces enfants dans leurs interactions sociales ?
On s'est aperçu que les robots faisaient beaucoup moins peur à ces enfants autistes. Dans l'introduction de cet outil, en tant que médiateur dans un environnement avec des enfants autistes et des adultes, on s'est aperçu que les enfants autistes, avec ces robots, commençaient à s'intéresser à certains aspects des interactions sociales auxquelles avant ils ne s'intéressaient pas, voire même à produire des sourires, d'abord en interagissant avec le robot et ensuite en interagissant avec une personne humaine dans le contexte de l'interaction avec ce robot. C'est-à-dire que le robot était le prétexte pour cet enfant à interagir avec quelqu'un d'autre. Et donc voilà, donc dans ce contexte-là, le robot est là comme quelque chose de nouveau qui va enrichir, stimuler la vie sociale, intellectuelle, affective de quelqu'un. Alors c'est, encore une fois, c'est un outil parmi d'autres, il ne faut pas non plus en surestimer l'importance. Mais probablement, de mon point de vue, peut-être que c'est plus dans cette direction-là qu'il faut réfléchir à l'utilisation des robots dans le futur, plutôt qu'à ce qu'on peut imaginer plus instinctivement.
C'était le mot de la fin. Si vous désirez en savoir plus sur ces robots, allez voir la page personnelle de Pierre-Yves Oudéyer. Pierre-Yves Oudéyer, merci d'avoir accepté cet entretien. Chers auditeurs, à la prochaine et n'oubliez pas l'informatique à portée de clic sur Interstice.